Pierre Caille et Andrea de leur invitation à participer à ce séminaire, tout en renouvelant aussi mes excuses pour le contretemps qui fait que la séance qui était initialement prévue au mois de novembre ou décembre n'avait pas pu avoir lieu à cette date. Alors, au départ, le sujet m'a été imposé par Andrea, mais c'est un juste retour des choses. Et finalement, donc j'ai donné, comme vous savez, à cette communication le titre « L'art combinatoire de l'Église et l'un de ses usages, retour sur l'éternel retour, apocatastasis ». Alors, je vous ai distribué une feuille. La première page de cette feuille, c'est pour des gens qui suivent un séminaire sur l'art combinatoire, n'a probablement aucun intérêt, c'est un rappel des définitions classiques de ce que nous appelons les permutations, les arrangements et les combinaisons. Et la deuxième page, le verso de cette feuille, c'est pour vous aider à suivre le calcul de l'indice dans l'un des textes que je vais commenter, et ça me dispensera d'écrire les formules au tableau, puisque vous les aurez sous les yeux. Alors la première moitié de mon titre fait référence à ce qui est un trait manifeste de la composition, du style de composition de la dissertation des Arte Combinatoria de 1666 de Leibniz, dont Leibniz se remarque, juste après les définitions initiales et avant le corps principal du texte, que trois choses sont à considérer: les problèmes, les théorèmes, les usages ou applications, usus. À chacun des problèmes, nous avons adjoint son usage, là où cela paraissait en valoir la peine, et des théorèmes, à certains des problèmes, nous avons aussi ajouté la raison de la solution. Juste un simple rappel, sans insister longuement, cette dissertation se divise en 12 problèmes d'inégale longueur, et la plus grande partie, en fait, en nombre de pages, est consacrée aux usages ou aux applications. Les usages réunis à la suite des problèmes 1 et 2 représentant à eux seuls plus de la moitié de l'ensemble des pages. Sous le nom de combinatoire, Leibniz traite dans cette dissertation de ce que j'appellerais avec Eberhard Knobloch la combinatoire au sens restreint, c'est-à-dire la théorie tout à fait rudimentaire des démembrements finis, permutation, combinaison et arrangement, rien de plus, et le tout se situant dans la lignée et à l'aboutissement de l'abondante bibliographie du sujet au XVIIe siècle, constamment citée dans ce qui était un travail d'étudiant, qui non seulement ne cache pas ses sources, mais les invoque dans une constante démonstration d'érudition. Plus tard, quand Leibniz sera devenu mathématicien, il y aura des recherches beaucoup plus profondes et subtiles, relevant d'une combinatoire mathématique en un sens plus riche, mais resté toujours inédit jusqu'à leur publication par Eberhard Knobloch, que j'ai déjà cité dans ces deux volumes. Le premier en 1873, qui était une étude historique et critique des travaux de Leibniz sur la combinatoire, et le second en 1976, qui était la publication, d'après les manuscrits, de documents entièrement inédits. La seconde partie de mon titre mentionne un peu ironiquement un retour sur l'éternel retour, c'est-à-dire un retour au texte que j'ai publié en 1991, en réunissant dans un même volume deux opuscules complémentaires, l'un intitulé « De l'horizon de la doctrine humaine » et l'autre « Apocatastasis Pantone », où, selon la traduction qui est celle que Leibniz a eu l'occasion de donner lui-même de ce titre grec, « Restitution universelle ». L'ensemble de ces textes illustre un usage spécial de l'art combinatoire au sens restreint. Dans le second opuscule, Leibniz fait référence, sous le vieux terme d'apocatastasis, à la thèse ancienne qui recevra plus tard l'appellation d'éternel retour de toute chose, certains ayant même pu croire, un peu trop vite, qu'il l'adoptait pour sienne. Mais, en tout cas, la thèse de l'éternel retour, sa possibilité, est présentée et argumentée comme une application particulière de l'art combinatoire, qui n'est elle-même qu'une conséquence ou un cas particulier de l'application plus générale qui était l'objet de l'opuscule sur l'horizon de la doctrine humaine. Mon édition de 1991 comportait 7 fragments et opuscules, dont 4 étaient alors entièrement inédits, et elle avait surtout pour objectif de restituer l'unité d'un ensemble de réflexions dont les expressions se sont étendues de 1690 à 1715. En 1690, la publication, on dirait aujourd'hui sauvage, c'est-à-dire sans l'autorisation de Leibniz, d'une nouvelle édition de la dissertation de Arte Combinatoria, l'a conduit à envisager, sans jamais véritablement l'entreprendre, un nouvel examen du sujet où il aurait pu réunir éventuellement les travaux restés dans ses brouillons et qui débordent du point de vue mathématique le cadre restreint où se tenait la dissertation. L'enchaînement des textes connus permet de reconnaître dans l'opuscule de l'horizon de la doctrine humaine un nouvel essai d'illustrer un usage parmi d'autres de cet art. Et le texte peut aisément être daté de septembre-octobre 1693, puisqu'il peut être identifié de façon certaine comme le mémoire adressé à l'Académie des sciences de Paris, joint à une lettre à son président, l'abbé Mignon, en date du 19 octobre 1696. Quant à l'Apocatastasis, le texte peut être daté aisément aussi de mai-juin 1715. Les deux états manuscrits figurent dans le dossier de la correspondance avec un des innombrables correspondants de Leibniz, Adam Theobald Overbeck, alors directeur adjoint du Gymnasium de Wolfenbüttel et avec lequel Leibniz a entretenu une correspondance mathématique portant notamment sur les fonctions symétriques, une question combinatoire mathématique difficile. La lettre de Leibniz du 17 juin et la réponse de Verbeck du 7 juillet 1715 permettent donc de reconnaître le texte comme le résumé par Leibniz de conversations qui venaient d'avoir lieu entre eux deux. Tout l'intérêt de publier ensemble, dans leur ordre chronologique, ces documents était de montrer comment ils mettent en place un réseau qui fait système et aboutit à une conclusion qui pouvait d'abord paraître inattendue, car en fait ce sera au bout du compte la limitation de cette application de l'art combinatoire qui éclatera à la fin du texte. Alors je voudrais d'abord présenter pour ce système de pensée, cet enchaînement de pensée, dans ce que j'appellerais sa version brute, c'est-à-dire en laissant de côté toutes les précautions de langage, toutes les réserves, toutes les objections que Leibniz se soulève à lui-même au fur et à mesure de son écriture et qui précisément aboutiront à cette conclusion que j'ai déjà annoncée. La première étape, donc 1693, donc à la suite de 1690 et la réédition sauvage du De Arte Combinatoria, la première étape s'inscrit dans la suite d'un texte qui avait déjà été publié par Coutura dans son grand recueil de 1903. Dans ce texte, dont je relève un certain nombre d'expressions caractéristiques, la combinatoire est présentée comme la science des formes ou formules ou bien des variations en général, Leibniz ajoutant qu'on peut la combiner avec l'arithmétique en calculant le nombre des variations possibles que les notes générales, notes qui vont dire ici tout caractère, tout symbole graphique, que les notes générales peuvent recevoir. Dans les écritures, ajoute Leibniz, que nous formons en nous servant des lettres d'alphabet, il y a de la variété tant à l'égard des lettres que de l'arrangement des lettres et des intervalles ou distinctions. Or, puisque toutes les connaissances humaines se peuvent exprimer par les lettres de l'alphabet et qu'on peut dire que celui qui entend parfaitement l'usage de l'alphabet sait tout, il s'ensuit qu'on pourra calculer le nombre des vérités dont les hommes sont capables et qu'on peut déterminer la grandeur d'un ouvrage qui contiendrait toutes les connaissances humaines possibles et où il y aurait tout ce qui pourrait jamais être su, écrit ou inventé et bien au-delà, car il contiendrait non seulement les vérités mais encore les faussetés que les hommes peuvent énoncer et même des expressions qui ne signifient rien. Fin de citation. Or, la grandeur, le nombre, si immense soit-il des lettres contenues dans cet ouvrage, est fini. Si donc les hommes progressent en établissant des vérités nouvelles, il viendra inéluctablement un moment où toutes les formules littérales possibles auront été écrites et où on ne pourra, je cite à nouveau, pas même faire de roman qu'un autre n'ait déjà fait, ni former une chimère nouvelle. Ainsi, il faudrait toujours qu'il fût un jour vrai au pied de la lettre, qu'on ne dira plus rien qu'il ait déjà été dit, ni il dit si, quod non dictum sit prius, citation de Terence. Le problème élémentaire, le calcul combinatoire, peut donc être formulé, je cite à nouveau le texte déjà publié par Coutura, il s'agit donc de donner un nombre plus grand que le nombre de tout ce qui se peut dire ou énoncer, c'est ce que nous allons faire, Mais le texte, le manuscrit du texte publié par Couturat s'arrête là. Après ce préambule, Leibniz n'a pas poursuivi, mais on peut considérer que précisément l'opuscule de 1693, de l'horizon de la doctrine humaine, est précisément la poursuite de l'entreprise laissée en plan à la fin de ce premier manuscrit, et donc pourrait apparaître aussi comme un élément qui aurait été extrait du programme plus vaste annoncé dans ce préambule général sur la portée et les applications de l'art combinatoire. Le nombre cherché, plus grand que tout ce qui se peut énoncer, est établi, nous verrons comment tout à l'heure, il est calculable et fini, et on peut dire, je cite Leibniz à la fin de l'horizon de la doctrine humaine, il surpasse d'un excès immense le nombre de toutes les vérités, de toutes les faussetés énoncées par les hommes, et il surpasse de même le nombre de tous les livres possibles qu'un homme puisse lire. De sorte que, conclusion, il est vrai que si le genre humain durait assez longtemps, presque tout ce qu'on pourrait dire ne serait que redit, et s'il y avait souvent des nouveautés, on serait enfin réduit à n'en pouvoir plus fournir. Et donc, ainsi serait tracé ce que Leibniz appelle une espèce d'horizon qui borne la doctrine humaine. La seconde étape, esquissée sans doute assez tôt, après ce mémoire de 1693, mais véritablement franchie complètement dans les textes de 1715, consiste à partir du fait que la doctrine, l'ensemble des vérités énonçables et des livres dans lesquels elle serait imprimée, la doctrine contient comme sous-ensemble celui des vérités historiques, c'est-à-dire, dans le langage de Leibniz, les propositions singulières portant sur les événements contingents et les sujets individuels qui y sont impliqués. Propositions du genre « César a été assassiné par Brutus au 2 mars de 44 avant Jésus-Christ » où la paix de Nimègue a été signée en 1678 et 1679. Et dans ce dernier cas, je cite un problème politique auquel Leibniz s'était beaucoup intéressé, la citation du texte des traités est aussi une vérité historique. Le nombre des histoires, entendons des livres d'histoire, est lui aussi un nombre fini. On saurait le calculer en fixant la longueur d'un livre suffisant pour contenir pour une année les annales de l'histoire publique et aussi les biographies des individus pour la même année. Le nombre de tous ces livres possibles est fini, et par application du raisonnement précédent, il doit donc venir un moment où les histoires, les livres d'histoire, seraient faites. Mais il y a plus. Puisque, comme l'observe Leibniz dans l'un des fragments que j'avais édité, les choses qui arrivent, quoi geruntur, les événements et les actions. Les choses qui arrivent offrent la matière des discours. Il y a une correspondance entre les livres d'histoire et les histoires au sens de séquence des événements. Et comme le présent est gros de l'avenir, la répétition d'une année engage la répétition des années suivantes ou d'un siècle entier de suite de siècles. Et donc, si les livres se répètent, c'est que les événements qui sont la matière des livres se répètent eux aussi. Et donc, ainsi retrouverait-on, mais par un autre calcul que celui du mouvement des astres, ce que, dit Leibniz, les anciens semblent avoir eu dans l'esprit quand ils ont parlé des révolutions de la grande année platonicienne. Et donc, du point de vue de l'histoire publique, on pourra dire, en citant le nom de souverain d'époque, que Léopold, Louis, notre Georges, Georges Ier qui venait de Hanovre, qui venait de devenir roi d'Angleterre, reviendront nécessairement dans cet espace de temps avec toutes leurs actions, y compris au niveau des vies individuelles. Leibniz, sur le premier état du texte, qui était inédit avant que je le publie, allant jusqu'à écrire, il viendra un temps où même la vie des individus reviendra exactement par les mêmes circonstances. Moi-même, par exemple, me trouvant dans une ville appelée Hanovre, au bord de la rivière Leine, occupé à écrire l'histoire du Brunswick et écrivant des lettres aux mêmes amis avec les mêmes significations. Et cette phrase est tout à fait singulière, ce ego ipse, moi-même, je reviendrai faisant exactement la même chose, écrivant l'histoire du Brunswick et écrivant les mêmes lettres. Voilà l'état, ce que j'appelle l'état brut de l'argument dans sa séquence. Alors, avant de revenir plus en détail sur l'argument, peut-être rapidement un petit rappel sur les antécédents qu'on peut en trouver déjà dans la dissertation de 1666, dans la dissertation De arte combinatoria, parmi la foule des exemples d'application que Leibniz mentionne dans sa dissertation. Par exemple, était mentionné dans le De arte combinatoria une écriture universelle fondée sur l'analyse des concepts et des propositions, écriture universelle telle que d'autres, dit Leibniz sans plus de précision, de nos jours ont tenté de la faire. Empruntée à un auteur allemand, Harsdorfer, auteur d'une collection qui avait beaucoup de succès au XVIIe siècle, de récréation mathématique, d'ouvrage d'amusement mathématique, le calcul de tous les mots allemands signifiant et utile ou inutile, avec un système inspiré de l'art de Lulle, de roues concentriques sur lesquelles sur chaque roue il y aurait les préfixes, les voyelles, les diphtongues, les consonnes, les suffixes, et puis en faisant tourner toutes ces roues, on obtiendrait par composition tous les mots allemands qu'on peut ainsi former. Ensuite, l'exemple tout à fait classique depuis Clavius des permutations avec répétition des 23 lettres de l'alphabet. Enfin, la possibilité de calculer aussi les permutations avec répétition, sans en donner le nombre. On sait, assurait Leibniz en 1666, que ce nombre est si grand que, je cite, même si le globe terrestre était solide sur toute sa surface, et si un homme occupait la moindre portion d'espace, et que chaque année ou même chaque heure, tous les hommes mouraient en étant remplacés par de nouveaux hommes, la somme de tous, depuis le commencement du monde jusqu'à sa fin, en serait de beaucoup éloignée, ainsi que Harsdorfer, toujours le même auteur de récréation mathématique, rapporte que le grec Elias Olympios l'a soutenu. Et j'enchaîne avec le paragraphe immédiatement suivant, dans ce passage du De arte combinatoria. Comme un ami objectait récemment à ses spéculations, qu'il s'ensuivrait que serait possible un livre où se trouverait tout ce qui a été écrit et est encore à écrire, alors je lui répondis, j'en conviens aussi, mais il faudrait au lecteur un support tout à fait considérable et je crains qu'il n'écrase le globe terrestre. Cependant, on ne trouvait pas de pupitre plus commode que les cornes de l'animal, grâce auxquelles Mahomet, porté au ciel, observa les secrets du monde et dont les oracles du Coran rapportèrent jadis la grandeur et la distance. Je pense que cette manière pour Leibniz de présenter les choses dénote de sa part une certaine ironie vis-à-vis de ce calcul fabuleux. On peut aussi rappeler un passage dans un fragment plus tardif, peut-être d'après 1690, en quelques lignes, où Leibniz annonce à écrire à propos de l'art combinatoire, De arte combinatoria scribenda, et entre autres exemples, il mentionne de la grandeur du livre dans lequel seraient écrits tous les hexamètres possibles. L'application de la combinatoire à la prosodie, ça aussi c'était un problème tout à fait classique au XVIIe siècle, et il ajoute du livre dans lequel se trouveraient déjà écrites toutes les vérités qui peuvent être comprises par les hommes. C'est effectivement l'annonce directe du thème de l'horizon de la doctrine humaine. Pour ne rien dire de la prosodie, le calcul du nombre des livres, ou du livre qui contiendrait tous les livres, a déjà investi, à la suite des premiers calculs de Clavius, toute une littérature au XVIIe siècle, où on pourrait citer, entre autres, les noms de Mersenne, de Caspar Schott, d'André Astaquet, Paul Goulding. Mais ce qui, en revanche, est nouveau chez Leibniz, ce n'est pas l'idée de ce calcul de tous les livres possibles, c'est le paradoxe qu'il en déduit, c'est-à-dire, apparemment, du moins, l'inéluctabilité du retour, soit des vérités, soit même, en général, des événements de l'histoire. Alors, je reviens maintenant, de façon plus détaillée, sur l'argument. Et d'abord, donc, sur l'exposé combinatoire qui se trouve dans l'horizon de la doctrine humaine, car dans les deux versions successives de l'Apocatas Assis Pantone, Leibniz ne donne aucun calcul. Il considère que le calcul est derrière et qu'on peut simplement en poser, sans le discuter, le résultat. Donc le problème est posé dans l'horizon de la doctrine humaine à l'égard de ce que Leibniz appelle doctrine, c'est-à-dire l'ensemble des vérités transmissibles, docere, enseignées. Tout ce qui appartient à la doctrine, ajoute Leibniz, est énonçable. J'entends les énonciations qu'on peut mettre par écrit et je distingue entre énonçable et prononçable. Soit, autrement dit, une suite de lettres ne correspondant à aucune émission vocale possible peut être retenue comme une énonciation possible. Soit par ailleurs l'alphabet latin de 24 lettres, avec la présupposition tacite mais constante dans la linguistique leibnizienne que tout ce qui peut être énoncé dans quelque langue que ce soit est traductible dans une formule écrite à l'aide de cet alphabet. Leibniz procède d'abord au calcul direct du nombre des mots qu'on peut former de ces lettres, soit qu'ils soient signifiants ou non signifiants, prononçables ou non prononçables. Tout à l'heure, il assurera que ce calcul des mots ou termes nous donne le moyen d'arriver à celui des énonciations ou des vérités et faussetés, ou plutôt celui-ci ne diffère de celui-là que comme le plus du moins le tout de la partie. C'est-à-dire qu'une énonciation peut être considérée comme un mot très grand, comme un unique mot très long. Et encore plus, on pourra considérer, au bout du compte, que tout un livre n'est rien d'autre qu'un seul et unique mot très long, une suite monotone de lettres de l'alphabet posées les unes après les autres jusqu'à une longueur déterminée. On verra tout à l'heure comment Leibniz procède dans ses calculs. Mais à ce moment-là, à peine commencé le calcul du nombre des mots contenant un nombre défini de lettres de l'alphabet, Leibniz interrompt la suite de ce calcul direct et, comme il le dit, pour prendre la chose de plus haut, il s'engage dans un l'exposé général de la classification des dénombrements qui reprend de façon synthétique et ordonnée les acquis de l'ancienne dissertation. Et le caractère d'excursus du texte qui commence alors est matérialisé en quelque sorte sur le manuscrit par le fait que Leibniz a entouré d'un trait continu tout cet ensemble de paragraphes qui vont venir maintenant pour les isoler en quelque sorte du reste, et en marge du manuscrit il y a en allemand, la mention « Platz zu lassen », « laisser de la place », qui manifestement était une consigne pour le copiste chargé de faire une version, probablement pour l'envoyer à l'Académie de Paris, pour une consigne de mise en page, en quelque sorte, pour le copiste, qui fait bien apparaître le caractère d'excursus d'incise de ce développement. Il y a, dit Leibniz, deux sortes de variations, de la matière ou de la forme, et aussi une troisième variation de toutes les deux. Variation de la matière, c'est ce que nous appelons les combinaisons, variation de la forme, c'est ce que nous appelons les permutations, variation de toutes les deux, c'est ce que nous appelons les arrangements. Alors, dans la mesure où ce passage inséré n'a finalement, par rapport au développement propre de l'argument de l'horizon de la doctrine humaine, aucun effet, c'est une espèce de mise en scène que Leibniz insère dans son texte, je pense qu'on peut passer assez rapidement. Je mentionne en passant que pour ce qui est des variations de la matière avec ou sans répétition, c'est-à-dire les combinaisons avec ou sans répétition, Leibniz exploite le triangle de Pascal, c'est un usage tout à fait classique en combinatoire. Et puis c'est après cette avancée dans première étude des permutations, d'abord sans répétition, puis avec répétition, que Leibniz revient à ce qu'il avait momentanément interrompu en écrivant « Quand il y a du redoublement mêlé dans les combinaisons, il est encore aisé de trouver le nombre de variations que la transposition peut produire. » Ça équivaut donc aux arrangements. Il est encore aisé de trouver le nombre de variations que la transposition peut produire, mais je ne veux pas maintenant m'y amuser parce que j'ai expliqué ci-dessus un moyen général qui donne toutes les variations ensemble, soit de la matière ou de la forme. Donc, on peut maintenant reprendre la progression de ce moyen général, du calcul direct d'abord du nombre des mots, puis celui des énonciations, et enfin son élargissement à celui des livres entiers. Alors, c'est ce que vous pouvez suivre donc, sur la page 2 du petit document. Je passe assez rapidement, parce que c'est des choses, surtout, très grande banalité sur le plan arithmétique. Pour un alphabet de 24 lettres, il existe, dit Leibniz, exactement 24 mots d'une lettre, qu'il appelle des monogrammes, et on passe aux mots de deux lettres, aux digrammes, en ajoutant à la fin de chaque monogramme une des 24 lettres. On en obtient donc 24 fois 24, c'est-à-dire 576, et ainsi de suite. On passe toujours aux mots d'un nombre de lettres immédiatement supérieur en multipliant par 24. Et généralement, écrit Leibniz, le nombre des mots de n lettres sera 24 puissance n. L'exemple d'un mot grec de fantaisie conduit à se fixer pour l'instant comme longueur maximale d'un mot 32 lettres. Bon, pour 32 lettres, il y a 24 puissance 32 mots possibles de cette longueur. Reste à maintenant à former la somme de tous les noms, de tous les mots faisables avec un alphabet de 24 lettres en allant de la longueur 1, monogramme, jusqu'à la longueur 32. Cela revient, dit Leibniz, à trouver la somme des nombres de progression géométrique, 24 plus 24 puissance 2, plus 24 puissance 3, etc., jusqu'à plus 24 puissance 32. Et une formule établie par ailleurs que Leibniz se contente ici d'appliquer sans la justifier, permet d'écrire que cette somme est égale à 24 puissance 33 moins 24 divisé par 23 par application d'une formule générale bien connue de la sommation des termes de progression géométrique. Leibniz fait ici en passant une remarque dont on verra l'importance à la fin, les logarithmes pourraient servir utilement pour l'abréger, abréger ce nombre, s'il était utile de l'entreprendre, mais il suffit d'en montrer le fondement sans qu'on ait besoin de le faire, puisque ce qu'on en donne ici est pour la méditation et non pas pour la pratique des nombres. Outre que je conçois mieux un nombre en disant qu'il est la 33e dignité, équivalent de puissance dans le vocabulaire de Leibniz, de 24 en le voyant écrit tout au long. C'est cette formule que Leibniz reprend quand il étend le calcul général par des maximisations successives. D'abord, une énonciation. Il va admettre qu'une énonciation, c'est-à-dire une proposition vraie ou fausse, une énonciation, qui est elle-même une suite de mots, pourrait occuper une page de 20 000 lettres. À ce moment-là, on aura 24 puissance 20 001 moins 24 divisé par 23, énonciation possible. Et puis on passe à une énonciation qui occuperait tout un livre. Je cite encore, qu'un homme pourrait à peine lire durant toute sa vie, en lisant 1000 pages par jour, chaque page de 100 000 lettres, et en vivant 1000 ans. Parce qu'il y a des auteurs alchimistes qui prétendent qu'ils ont vécu cet âge-là, donc pour voir grand, on va s'accorder cette durée de vie. Donc, vous avez la formule du nombre de lettres qui pourraient être lues en un an, et la longueur du livre, et le nombre de tous les livres de cette longueur, qui serait donc 24 puissance 365 suivi de toute une liste de 0, moins 24 divisé par 23. Leibniz simplifie le calcul en supprimant la soustraction de 24 et la division par 23, ce qui revient à multiplier par 23 le nombre déjà obtenu. Il pratique quelques autres substitutions. De l'alphabet 24 lettres, il passe à 25, mais 25 l'intéresse parce que ça lui permet de passer directement à la supposition d'un alphabet qui contiendrait 100 lettres, c'est-à-dire 10 puissance 2 lettres, ce qui aboutit donc à poser que le nombre de tous les livres possibles de cette immense longueur avec un alphabet qui contiendrait 100 lettres est égal à 10 puissance 7, 3, suivi de 11, 0, ou encore, on peut écrire, c'est là qu'on retrouve l'usage des logarithmes, que le logarithme décimal de ce nombre est égal à 7, 3, suivi de 11, 0. ce qui assure l'église très tranquillement, ce qui suffit pour le concevoir distinctement. Ce qui suffit pour le concevoir distinctement, c'est assez... Bon. Mais oui, c'est une définition, effectivement, qui tient en un nombre fini de signes, de symboles, logarithme de n égale 7,3 suivi de 11 zéros. On a donc la certitude que ce nombre est bien défini, il est bien déterminé, les lois d'arithmétique nous garantissent qu'il est possible, et surtout, il est fini. Il est fini. Ce nombre, si immense soit-il, est fini. Et donc, ce nombre si borné surpasse d'un excès immense le nombre de toutes les vérités, de toutes les faussetés énoncées par les hommes, et de même le nombre de tous les livres possibles qu'un homme puisse lire. Alors, et c'est à partir de là, donc, à partir du constat que le nombre des vérités ou faussetés intelligibles par les hommes est inférieur à ce nombre très grand, mais de toute façon fini, donc le nombre de toutes les vérités et faussetés concevables est fini, donc si on continue d'en produire de nouvelles, il viendra inéluctablement un moment où l'on ne pourra que faire des redites. Dans le commentaire que j'avais donné à la suite de mon édition, je soulevais les apories contenues dans un calcul qui porte sur ce que j'avais appelé un monstre linguistique, que j'avais appelé l'écriture absolue, en entendant par là une écriture qui est en fait déliée ou détachée de toute condition d'interprétation linguistique possible. Sans revenir là-dessus, je voudrais, pour passer à la suite, faire les quelques remarques suivantes. D'abord, Leibniz, dans le préambule de son mémoire de l'horizon de la doctrine humaine, mais déjà dans le texte antécédent sur l'art combinatoire publié par Couturat, s'inspirait explicitement du modèle donné par le calcul d'Archimède dans l'Arénaire. Dans l'Arénaire, Archimède se livre à un exercice pour montrer que, en se libérant évidemment des contraintes du système de numération par lettres qu'utilisaient les Grecs, on peut se donner les moyens d'exprimer un nombre immensément grand, plus grand que le nombre de tous les grains de sable qui seraient contenus entre la surface de la Terre et la sphère des fixes dans le système astronomique des anciens. Donc, ce que calcule Archimède, ce n'est pas le nombre des grains de sable. Ce qu'il montre, c'est qu'en admettant qu'il y ait un nombre de tous les grains de sable qui seraient contenus dans tout l'espace du monde, entre la Terre et la sphère des fixes, on peut toujours concevoir et désigner un nombre plus grand. Toujours concevoir et désigner un nombre plus grand. Il en va exactement de même pour Leibniz. Ce qu'il calcule, Leibniz ne calcule pas le nombre des vérités ou faussetés possibles, concevables par les hommes, ni même le nombre de tous les livres faisables, de tous les livres qu'on peut écrire. Il calcule un nombre encore plus grand. Calcule un nombre encore plus grand, tout en disant, mais le nombre des livres faisables est compris dans ce nombre encore plus grand, donc il est a fortiori fini. Mais il suffit donc de savoir que parmi toutes ces séquences de lettres signifiantes ou non signifiantes, prononçables ou non prononçables, se trouvent aussi celles qui sont signifiantes et qui signifient une vérité ou une fausseté que les hommes peuvent établir dans le domaine de leur connaissance. Autrement dit, si on peut bien conclure qu'il doit y avoir un horizon qui marque, comme dit Leibniz, le non plus ultra de la doctrine humaine, cet horizon n'est pas tracé, il n'est pas déterminé, il n'est pas traçable. On sait qu'il doit se trouver quelque part, mais on ne peut pas dire exactement où, dans cette masse de prolifération de caractères d'imprimerie mis les uns à la suite des autres, où se trouve la limite entre ce qui est proprement de la doctrine et ce qui est suite non signifiante de l'être. Seconde remarque, plusieurs indices textuels marquent que Leibniz n'est pas, même dans ce premier mémoire, dupe de son propre jeu. D'abord, il prend soin de préciser que l'horizon de la doctrine humaine n'est pas celui de la pensée ou de l'esprit humain. Car, écrit-il, « Je ne nie pas que les hommes n'aient quantité de pensées, de sentiments confus, songes, fantaisies et impression qu'on ne saurait énoncer, puisqu'il est constant que nous n'avons pas assez de noms pour toutes les différences subtiles des qualités sensibles, comme des couleurs, sons, odeurs, goûts ou attouchements, ni pour toutes les différences des sentiments internes, comme des appétits, plaisirs, douleurs. Et je donne l'exclusion ici à toutes ces choses qui ne sauraient être énoncées. Ce qui est énonçable, ou ce qui est distinctement connu, n'est donc qu'une partie finie de nos notions qui se détachent d'un fond infini de perception, ou, dans l'acception très générale du terme chez Leibniz, de pensée confuse. C'est par ce fond infini qu'une substance individuelle, une âme, ou tout ce qui est analogue à l'âme, que Leibniz appellera plus tard une monade, correspond à l'univers tout entier qu'elle concentre ou exprime. Comme il l'écrit dans le discours métaphysique, une substance qui est d'une étendue infinie en tant qu'elle exprime tout, devient limitée par la manière de son expression plus ou moins parfaite. La doctrine, ce que Leibniz appelle la doctrine, dont il prétend assigner l'horizon, s'inscrit dans cette limitation de l'expression plus ou moins parfaite. Et donc, l'horizon de la doctrine n'épuise pas l'individualité et donc la réalité de la substance, si on veut, de la monade. Il y a là une réserve décisive qui trouvera son développement dans la suite. Enfin, à la fin du mémoire, à propos de la conclusion du calcul, selon laquelle, s'il y avait souvent des nouveautés, on serait enfin réduit à n'en pouvoir plus fournir, il remarque: Cela ne laisse pas de choquer l'harmonie des choses. Il faut donc revenir à une des clauses conditionnelles du calcul. Le calcul vaut, Leibniz l'a dit à plusieurs reprises, s'agissant des hommes tels que nous les connaissons, dans l'état présent de leur capacité à connaître. Si le genre humain, écrit Leibniz, durait assez longtemps, presque tout ce qu'on pourrait dire ne serait que redit. Et en marge du titre, Leibniz a raturé d'un trait oblique une phrase dont on peut penser qu'elle est d'ailleurs inachevée, incomplète: peu de probabilité que le genre humain dure toujours. Phrase peut-être incomplète, qu'il faudrait compléter: peu de probabilité que le genre humain dure toujours dans l'état où il est, dans son état actuel, dans son présent état. Et donc, je reprends maintenant la citation complète: cela ne laisse pas de choquer l'harmonie des choses et de nous faire croire que l'état présent du genre humain ne durera pas assez pour cela. Et donc, si on ne considère dans le calcul que l'état présent, cela n'empêche point, je cite à nouveau, que l'esprit de l'homme ne puisse être élevé un jour à un degré d'étendue incomparablement plus grand. Un degré d'étendue qui déborderait celui de l'horizon, dont, de toute façon, on ne sait pas très bien où il se situe dans le calcul des très grands nombres auxquels on vient de se livrer. Donc nous avons deux considérations qui sont intervenues: la considération d'une part de l'infini contenu dans les tréfonds de l'arbre ou de la monade au niveau des pensées confuses, indistinctes, et aussi la considération de l'harmonie qui invite à admettre que l'esprit humain pourrait changer en quelque sorte de dimension et passer à un cadre de connaissances plus étendu. Et c'est précisément ces réserves ou ces objections déjà présentes dans le texte de 1693 qui donnent la clé, me semble-t-il, des textes finaux sur l'apocatastasis. Avant d'examiner ce texte lui-même, je remarque que la conséquence de la répétition des vérités à celle des événements et de leurs acteurs a pu être envisagée par Leibniz assez tôt après la rédaction du mémoire de l'horizon de la doctrine humaine. C'est ce qu'indiquerait un texte qui est en fait un début de quasi-traduction en latin du mémoire précédent, qui contient le titre l'invocation initiale de l'exemple d'Archimède et la restriction de la doctrine aux seules propositions énonçables, à l'exclusion des pensées confuses et des qualités sensibles. Leibniz avait d'abord sur son manuscrit traduit directement en latin le titre, donc Horizon Doctrinae Humanae. Puis il a ajouté, après Doctrinae, Actionisque, Horizon de la doctrine et de l'action humaine. Et finalement, il a rayé et il a remplacé par un nouveau titre, Horizon Rerum Humanarum, Horizon des affaires humaines. Donc un titre tout à fait général. Et à la fin du titre, il a ajouté à ce qui était le titre français de l'opuscule précédent, il a ajouté cette extension. Donc non seulement viendra un moment où on ne pourrait plus que redire des vérités déjà connues, déjà écrites, et ce qui est encore plus, que des hommes nouveaux vivraient toute une vie, la même en gros, ad sensum, sensiblement la même, que celle que d'autres ont déjà vécue. C'est bien un premier état de ce que sera le thème des textes de 1715, à cette réserve toutefois qu'il s'agirait non pas du retour des mêmes hommes, mais d'hommes nouveaux qui vivraient une vie sensiblement la même que les hommes précédents, expression qui peut paraître embarrassée, et sur ce point, en effet, la première version des textes de 1715 est beaucoup moins prudente, puisque Ennis n'hésitait pas, dans cette première version, à affirmer le retour dans l'histoire publique des grands personnages de notre époque, Louis XIV, Léopold Ier d'Autriche, Georges Ier d'Angleterre, et aussi dans les vies individuelles, son propre retour dans les mêmes occupations. Or, c'est là où ce que l'édition rendait possible, c'était la comparaison des deux états successifs du texte de 1715. Et cette comparaison est extrêmement, extrêmement intéressante. Elle est extrêmement intéressante parce que dans une extension qui double à peu près la dimension du texte, pratiquement deux fois plus de mots dans la deuxième version que dans la première, on voit que toutes les modifications vont faire système. Alors, regardons cela de plus près. D'abord, comme je l'ai déjà dit, les deux versions ne comportent aucun développement de calcul combinatoire comme il y en avait dans l'horizon de la doctrine humaine. Leibniz se contente de poser au début de façon conventionnelle ce qu'il appelle la grandeur d'un livre, d'une grandeur définie. Grandeur définie d'un livre. Ce serait un in-folio de 10 000 pages, chaque page contenant 100 lignes et chaque ligne 100 lettres. Donc ce serait un livre qui contiendrait 100 millions de caractères, 100 millions de lettres. C'est ça un livre d'une grandeur définie. Or, dit Leibniz, le nombre des livres d'une telle grandeur qui peuvent être formés de 100 millions de lettres de l'alphabet est fini, et même on peut obtenir ce nombre par le calcul des combinaisons, soit n ce nombre. Il ne s'embarrasse pas du tout du calcul, il dit on peut toujours calculer ce nombre, il est fini, soit n ce nombre. Les suppositions seront donc qu'un nombre de cette longueur, en tout cas, suffit pour relever les événements principaux d'une année d'histoire publique, les annales au sens propre du terme de l'histoire publique d'une année donnée, et autant de livres qu'il faut de cette longueur permettent de décrire les événements principaux, en tout cas, de la vie de chaque individu pendant la même année. Si on assemble tous ces livres ensemble, on obtient toujours un nombre fini, et par conséquent, on arrivera toujours à la conclusion qu'il y aura aussi bien un retour, une répétition des livres d'histoire, aussi bien l'histoire publique des annales que l'histoire privée des biographies, qui entraînerait du même coup le retour de ce dont elle discourt, c'est-à-dire la répétition des mêmes séquences d'événements et des mêmes sujets. Mais justement, c'est là où les choses vont glisser, parce que il s'est introduit un élément différent par rapport au cadre d'interprétation du calcul dans De l'horizon de la doctrine humaine. Dans De l'horizon de la doctrine humaine, l'ensemble des vérités et des faussetés ou de la doctrine était compris dans le nombre de tous les livres possibles, mais n'était considéré que dans leur formulation livresque, sans se poser la question de leur rapport à leurs objets. c'est-à-dire à ceux dont elles énoncent quelque chose de vrai ou de faux. Dans le cas de cette partie de la doctrine qui est l'histoire, histoire civile des hommes ou histoire, qui chez les mythes est toujours présente à l'arrière-plan, histoire naturelle des corps, histoire naturelle des espèces, le rapport des vérités historiques à ce qu'elles décrivent ou relatent est constitutif de leur caractère de vérité ou de fausseté. Les choses qui arrivent offrent la matière des discours. C'est pourquoi on peut conclure à rebours de la répétition des discours à la répétition de leur matière, c'est-à-dire de ce dont les discours parlent. Mais c'est précisément ce retour qui va faire éclater le dispositif. Et pour montrer comment le dispositif éclate, le plus simple est de comparer les deux versions, le premier jet et la reprise, beaucoup plus développée, donc presque le double de texte, sur le deuxième manuscrit. Il y a des omissions, il y a des substitutions, et surtout l'adjonction de développements nouveaux. Alors voici le relevé de ces modifications qui s'introduisent dans l'écriture d'un état du texte à l'autre. D'abord, le titre Apokatastasis Panton, restitution universelle, ou, si on veut, retour de toute chose, devient seulement Apokatastasis. Le Panton disparaît. Donc, c'est le retour de la restitution, mais ça n'est qu'un indice, cette disparition du Panton, de toute chose, universelle, mais cet indice est confirmé par ce qui suit. La phrase, les deux phrases, la phrase d'abord qui déclarait nécessaire dans l'histoire publique, le retour de Léopold, Louis, notre Georges, avec toutes leurs actions, n'est pas reprise non plus que la phrase où Leibniz affirmait la nécessité de son propre retour dans les vies individuelles. Elles sont remplacées par une formulation beaucoup plus indéterminée et équivoque, qui est la suivante. On ne peut pas démontrer par le calcul que reviendront précisément Léopold Ier ou Louis XIV ou moi, ou un autre individu privé. Parce que si quelques autres se répètent plus souvent, il n'est pas nécessaire que tous se répètent. Un argument assez étrange, par ailleurs incompatible avec la métaphysique leibnizienne, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Leibniz note lui-même ici quelque chose qui échappe au calcul. Le calcul ne peut pas nous assurer que ce soit strictement les mêmes et toujours les mêmes qui reviennent. Et passons maintenant aux adjonctions qui s'insèrent dans le texte jusqu'à la fin et qui peuvent se regrouper en montrant comment elles font en fait système entre elles. Alors, on a quatre principalement. Premièrement, observons que les raisons métaphysiques, et il y en a deux, celle qui est contenue chez Leibniz dans la formule qu'il répète constamment, le présent est gros de l'avenir, et celle, formulée de façon plus abstraite, si les mêmes causes reviennent, les mêmes effets reviendront aussi. Ces raisons métaphysiques amènent à conclure que si un seul siècle revient exactement, il faut juger que les siècles suivants reviendront aussi. Leibniz formule alors la réserve que même si un siècle précédent revenait relativement aux aspects sensibles ou à ce que les livres peuvent décrire, il ne reviendra pourtant pas complètement et à tous égards. Ça confirme l'élimination du pantone. La raison en est la division actuelle du continu en une infinité de parties. Et donc, dit Leibniz, dans chaque partie de la matière, il y a un monde d'une infinité de créatures qui ne peut être décrit dans un livre, quelque grand qu'il soit. Cette division actuelle de n'importe quelle parcelle de la réalité en un monde d'une infinité de créatures, c'est un thème absolument constant et banal chez Leibniz, mais qui est présenté ici comme un obstacle à la possibilité d'en épuiser la description dans un livre. On note d'ailleurs ici que l'histoire bascule du côté de la description de la nature, changement décisif pour la suite des corrections. Dans le même développement, Leibniz indique qu'on pourrait concevoir un monde d'Épicure qui consisterait en association finie d'un nombre lui-même fini d'atomes, et où à ce moment-là, les mêmes collections reviendraient. Et un tel monde pourrait être parfaitement connu par une créature de perfection finie, aux capacités cognitives, grandes si on veut, mais en tout cas bornées. Mais, ajoute Leibniz, à propos de cette fiction donc d'un monde d'Épicure, qu'il attribue à Épicure, la supposition d'un nombre fini d'atomes à la base est historiquement inexacte, mais ça arrange Leibniz de reformuler comme ça, cela n'a pas lieu dans le monde véritable. Et donc, les révolutions du monde physique peuvent s'accompagner d'un progrès insensible vers le mieux. Deuxième remarque. Leibniz ajoute aussi, dans les textes complémentaires qui interviennent dans la deuxième version, que le calcul ne peut pas déterminer si ceux dont l'histoire se répète sont les mêmes individus avec une âme numériquement identique, mais ayant peut-être un peu progressé, ou ils sont, ou s'ils sont des individus différents, quoique très semblables. Donc le calcul ne peut pas déterminer si les êtres qui reviendraient seraient le même individu identique, numériquement identique, ou des individus différents, mais ressemblants, comme les Tarquins approchants des autres mondes possibles dans la mise en scène finale de la Théodicée. Pourquoi ? Parce que ce qui relève de la congruence, cela dit, la décision sur ce sujet donc, échappe au calcul, et relève de la congruence, du choix du meilleur et de la sagesse divine. Là encore, l'harmonie amène à tabler sur un progrès, quelle qu'en soit l'allure ou le parcours, avec peut-être des sauts ou des reculs, selon la formule constante de Leibniz quand il traite de cette question, des reculs pour mieux sauter. Et il écrit, littéralement, « Il n'est pas en accord avec l'harmonie divine de toujours pincer la même corde. » Alors, en quoi consisterait ce progrès ? Troisième remarque. Je ne vais pas, dans le cadre de cette communication, développer les textes nombreux où Leibniz expose ses conceptions possibles d'un progrès dans l'histoire. Je me bornerai à reprendre la très juste remarque qui figure dans le très beau chapitre que Hans Blumenberg a consacré à ce texte dans son livre « Die Lesbarkeit der Welt », la lisibilité du monde. Chapitre tout à fait fascinant, à mon avis, dans ce livre de Blumenberg. Blumenberg écrit que pour Leibniz, le monde ne serait pas le meilleur des mondes possibles s'il ne pouvait devenir meilleur dans la dimension de son histoire. Et il y a en effet, pour Leibniz, sans entrer dans le détail, un progrès du monde dans son ensemble, un progrès humain des sciences, aussi bien des connaissances pures que des connaissances empiriques, et de leurs applications techniques dans les arts et le mieux-être. Et à la racine de tout, il y a le progrès individuel des esprits. Quoi qu'il en soit de la variété de ces domaines et de la diversité de ces formes, l'essentiel est que le progrès est inscrit pour Leibniz dans la loi d'être, en tout cas de ce qu'il appelle les esprits, qui sont ce qu'il y a de meilleur dans le meilleur des mondes. Comme il l'écrit à la fin des principes de la nature et de la grâce, ainsi notre bonheur ne consistera jamais, ne doit point consister dans une pleine jouissance où il n'y aurait plus rien à désirer qui rendrait notre esprit stupide, mais dans un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs et de nouvelles perfections. Les ajouts textuels de la dernière version de l'Apocatastasis caractérisent finalement ce progrès par des critères relatifs à la capacité cognitive des esprits et à l'accroissement de cette capacité. En quoi consiste cet accroissement ? Concevoir des théorèmes de plus en plus longs, à l'infini. Approfondir la nature en appliquant toujours davantage en finesse les mathématiques à la physique, connaître de plus en plus finement la machine animale, prévoir à un degré de vraisemblance les futurs contingents, produire dans la nature des merveilles qui surpassent le pouvoir actuel des hommes, et enfin démontrer sur les espèces, Leibniz prend explicitement l'exemple de la mouche, et même sur les individus de l'espèce, des propositions de plus en plus prolixes, de plus en plus longues, de plus en plus détaillées. Et donc, dernière remarque, la raison de tout cela réside justement dans ce que le calcul de l'horizon de la doctrine humaine excluait de son champ d'application, c'est-à-dire la réserve infinie des pensées confuses et des qualités sensibles. Le texte final de l'Apocatastasis reconnaît que les vérités sensibles fondées sur des perceptions confuses qui varient à l'infini peuvent aussi varier à l'infini et offrir une matière toujours renouvelée à la science et à des propositions de grandeur croissante. Et précisément ces variations-là sont des variations qui ne sont plus celles sur lesquelles pouvait opérer l'art restreint des combinaisons, le calcul des dénombrements finis. Ainsi, l'état terminal du texte de l'Apocatastasis accomplit plusieurs basculements. Le premier a été celui des passages des annales de l'histoire publique universelle à la sommation de toutes les histoires individuelles. Ce premier basculement conduit à l'éclatement du système des conditions sous lesquelles le retour pouvait être pris à la lettre comme restauration intégrale d'un même monde. À s'en tenir aux seules annales, on ne saurait pas encore avec certitude comment échapper à la conclusion. L'histoire publique pourrait en effet être décrite de manière suffisante, sufficientaire, dit Leibniz, par les registres des événements mémorables fondés sur les actes publics qui les notifient. Et donc à l'ordre de grandeur des faits rapportés, il pourrait y avoir adéquation entre les suites de faits et les ensembles de l'ivresse, entre les choses et leurs descriptions. Mais pour les vies individuelles, en revanche, les livres offrent le moyen d'une description qui n'est que détaillée, dit Leibniz, et dont la convenance au sujet de l'histoire n'est que partielle. Car cette description suppose en effet un choix qui isole une liste finie de propriétés, prédicats, phénomènes ou événements sur un fond d'infini virtuellement disponible, toujours prêt à nourrir une narration plus détaillée. De sorte que s'il y a répétition du même sous-ensemble, elle est l'effet de la construction d'un récit qui repose sur la sélection d'une trame discontinue et finie, mais pour les sujets réels, substance individuelle ou individu complètement déterminé, la loi de leur constitution et de leur appartenance au monde rend cette répétition invraisemblable. La récusation définitive vient avec le second basculement, qui, avec le rejet du modèle physique épicurien, soi-disant épicurien, abandonne le terrain de l'histoire des actions humaines dans l'histoire publique et individuelle pour inscrire aussi l'histoire de la nature dans la constitution de la connaissance humaine et de ses progrès. Dès lors, le progrès à venir des esprits se définit par le caractère des vérités qu'ils pourront atteindre pour ce qui est de la science pure, démonstrative, des théorèmes dont les énoncés croîtront au-delà de ce que nous pouvons actuellement concevoir. Dans le cas des vérités contingentes, le concept d'histoire retourne à son acception traditionnelle. Ainsi, à la fin de l'Apocatastasis, il n'est plus question du seul récit ordonné des événements dans la vie des États et des hommes, mais de l'étude descriptive de régions de plus en plus finement différenciées de la réalité naturelle. Le progrès des esprits serait alors d'acquérir une capacité de plus en plus grande à énumérer les marques ou caractères, c'est-à-dire donner la définition d'espèces naturelles de plus en plus spécifiques, spécifiées et restreintes. Le paradigme fourni par définition constructive qui expliquerait la structure d'une mouche témoigne de cette primauté de l'histoire naturelle. Et donc, un même champ de progression s'ouvre alors depuis les théorèmes des sciences pures jusqu'aux descriptions de la mouche ou d'espèces de plus en plus différenciées de mouches. Si le meilleur des mondes est celui où la meilleure part des esprits se caractérise par la capacité de progrès, cette croissance du savoir global déborde toute possibilité de répétition du même. Et je cite à nouveau une formule de Blumenberg dans le même chapitre, on trouve alors le paradoxe selon lequel le meilleur des mondes possibles doit pouvoir devenir encore meilleur si on ne doit pas pouvoir en concevoir un meilleur qui lui pourrait, ce paradoxe détermine l'inadmissibilité de toute prédiction du retour du même. Autrement dit, l'outil combinatoire a pu à un moment proposer comme objet de méditation cette idée du retour du même, soit dans l'établissement de la doctrine humaine, soit dans la succession des événements et des acteurs de l'histoire. Mais cet usage se retourne contre lui-même. Le titre de mémoire de 1693, annoncé par ses premiers et ses derniers mots, que je réunis, de l'horizon de la doctrine humaine pour faire voir les bornes de l'esprit humain et son étendue à les connaître. Les derniers mots du second état du texte 1715 sont « Et tout esprit a un horizon de sa capacité présente à l'égard des sciences, mais n'en a pas de sa capacité future. Coelis mens horizontem presentis sui circa scientias capacitatis habet, nullum futurae, pas d'horizon de sa capacité future. Et donc la boucle est achevée. Si horizon il y est celui du présent, et il y a, en tout cas pour les esprits, il n'y a pas d'horizon de l'avenir. L'usage de l'art combinatoire a donc été de construire une fiction, mais on n'oubliera pas que Leibniz, à plusieurs reprises, dit par exemple quelque chose comme ceci, pour mieux entrer dans la nature des choses, il est permis de faire des fictions. Ma conclusion consistera donc en une formule qui va sans doute à l'encontre de préjugés qui se répandent encore dans la vulgarisation de Leibniz. L'arrangement, l'ordre, ou si on veut, la structure du réel leibnizien n'est pas combinatoire. Parce que, selon encore une fois formule que j'emprunte à Blumenberg, pour Leibniz, l'ordre de la composition du livre n'est pas une métaphore de la réalité elle-même, mais de sa seule description finie. Les dénombrements sont des ensembles finis d'éléments discrets. La réalité pour Leibniz est caractérisée à la fois par l'infini actuel et par la continuité. Il est vrai que le savoir, dans la doctrine livresque, est ordonné selon l'art des combinaisons. Les vérités du savoir transmissible sont des connaissances distinctes. Et ce que Leibniz appelle une connaissance, une notion ou un concept, est distinct quand ils sont susceptibles d'une définition nominale. Une définition nominale est une énumération suffisante de caractères, au sens de caractère conceptuel, ou de notae, de la chose définie. Ces caractères sont donc dans une définition nominale, en nombre fini, et leur multiplicité est discrète. En ce sens, on peut dire que l'art combinatoire est bien la théorie formelle et générale des énumérations possibles, ramenées aux notes littérales et aux caractères, aux symboles d'une caractéristique quelconque. Comme science des formules et des formes, l'art combinatoire établit bien les conditions sous lesquelles les vérités démontrables, je cite, « pouvant être expliquées par des mots, sont d'une multitude limitée en fonction de leur grandeur. Mais il reste à tout moment un hiatus entre le réel et le savoir symbolique de ce réel tel qu'il s'écrit, se conserve et se transmet, de sorte que, à la fin de la dernière version de l'Apocatastasis, on aurait, à mon sens, atteint l'horizon de la doctrine combinatoire.